Vous écoutez On lit pour vous.
Délaissés par Québec, des patients vivent dans le risque constant d'incontinence. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir. Des personnes blessées à la moelle épinière réclament que Québec couvre un appareil médical essentiel à la gestion de leurs troubles intestinaux. Faute de pouvoir se payer cet équipement, certaines limitent leurs activités et leurs déplacements par crainte de connaître des épisodes d'incontinence fécale en public. Je me sens délaissée. Je suis quelqu'un qui travaille et qui paie ma part d'impôts comme tout le monde. J'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte les soins dont j'ai besoin. Déplore Marie-Julie Dion, consultante en psychologie financière. Paraplégique depuis 2010, la quinquagénaire montréalaise souffre de troubles intestinaux liés à sa lésion de la moelle épinière. Au quotidien, elle aurait besoin d'un dispositif médical appelé péristyne. Ce système d'irrigation transanale permet de vider le côlon à l'aide d'eau tiède afin de prévenir les épisodes d'incontinence et la constipation sévère. Or, cet appareil n'est présentement pas couvert par le programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination du Québec, qui peut fournir, entre autres, des culottes d'incontinence et des sacs urinaires. Les personnes blessées dans un accident de la route ou du travail, elles, peuvent toutefois obtenir un remboursement du péristyne par l'entremise de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, ou de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, lorsqu'il leur est prescrit. Les autres doivent généralement payer le dispositif elles-mêmes, à moins de bénéficier d'une assurance privée qui le couvre. Selon la fréquence d'utilisation, le péristyne peut coûter entre 5 000 et 10 000 $ par année, notamment en raison du remplacement régulier des tubes nécessaires à l'irrigation. Vie limitée. Sans couverture pour cet appareil et ne pouvant en assumer les coûts, Marie-Julie Dion doit s'en passer. Elle dit consacrer parfois jusqu'à 4 heures par jour à la gestion de ses selles et vit avec le risque constant d'incontinence. Ça affecte souvent mes sorties. Je dois annuler à la dernière minute et ça crée des tensions avec les amis et la famille, confie-t-elle, une pointe de tristesse dans la voix. À ses yeux, elle pourrait retrouver une vie plus normale avec le système péristyne qui lui permettrait de ne se vider le côlon qu'une fois par jour. Jean Archambault connaît bien ses bénéfices. Pharmacien propriétaire à Montréal, il utilise l'appareil depuis 3 ans. Comme il n'est pas admissible à une couverture publique, il en assume lui-même les coûts. Quand vous êtes au laboratoire et répondez aux questions des clients, vous ne pouvez pas toujours tout lâcher pour courir à la salle de bain. « Maintenant, je n'ai plus d'accident », affirme cet homme de 62 ans, blessé à la moelle épinière à la suite de hernie discale. Selon lui, l'accès à cet appareil ne devrait pas dépendre de la capacité de payer des patients. Quand on retrouve une stabilité dans ses fonctions d'élimination, ça permet de continuer à travailler malgré tout. Question de dignité. Le système péristyne est généralement recommandé en dernier recours aux personnes ayant une lésion de la moelle épinière ou une maladie neurologique. Dit Adèle, Liliane, Ngo, Mben, Ngot, organisatrice communautaire en défense des droits chez Moelle épinière et motricité Québec. Quand une personne a une dysfonction intestinale neurogène causée par une lésion nerveuse, on essaie d'abord des laxatifs, les suppositoires ou les techniques de curage rectal. C'est lorsque toutes ces méthodes échouent qu'un professionnel de la santé recommande ce type d'appareil, explique-t-elle. Adèle, Liliane, Ngo, Mben, Ngot réclament des changements rapides pour ceux qui ne sont pas couverts. En 2026, au Québec, devrait-on encore débattre de la possibilité pour certains de nos concitoyens d'aller à la selle dignement? Je pense que non. Selon Moelle épinière et Motricité Québec, quelques 4000 Québécois utilisent ce système ou pourraient en bénéficier. Cette estimation comprend autant les personnes déjà couvertes à la suite d'un accident de la route ou du travail que celles qui ne le sont pas. De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, indique cependant ne pas être en mesure de confirmer ce chiffre. Éviter des complications. En 2022, une quinzaine de médecins et infirmières de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal ont écrit une lettre au gouvernement québécois, obtenue par Le Devoir, pour réclamer le financement de cet équipement pour les patients non couverts. Il souligne que les épisodes d'incontinence peuvent entraîner plusieurs complications médicales, notamment des plaies liées à l'humidité et à l'acidité des selles. Un accès amélioré à ce matériel, soutiennent ces professionnels, pourrait ultimement réduire certains coûts pour la société québécoise. Il diminuerait le taux de dépression et d'isolement chez cette clientèle, favoriserait son intégration au travail et augmenterait son autonomie, font-ils valoir. Joint par Le Devoir, le M3S indique que des démarches sont en cours avec l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux afin d'évaluer les bénéfices du péristyne par rapport aux autres systèmes d'irrigation. Le ministère pourra ensuite décider s'il doit être couvert par le programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination. De son côté, Santé Québec, Centre-Sud de l'île de Montréal, universitaire, duquel relève l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, n'a pas souhaité faire de commentaires. C'était « Délaissés par Québec, des patients vivent dans le risque constant d'incontinence ». Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir.
Le téléphone lié à la chute de la fécondité, selon deux études. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 juin 2026 dans La Presse. L'arrivée des téléphones intelligents a fait chuter la fécondité aux États-Unis et au Royaume-Uni, affirment deux nouvelles études. Le fait que la technologie facilite l'accès à la pornographie et l'attrait des réseaux sociaux pourrait expliquer le phénomène. Nous avons été surpris de l'ampleur des résultats, explique Caitlin Myers, économiste au Middlebury College au Vermont est co-auteur d'une étude publiée en juin sur le site de prépublication du National Bureau of Economic Research, NBER. L'arrivée du téléphone intelligent explique près de la moitié de la chute de fécondité aux États-Unis. L'étude de Mme Myers prenait en compte les améliorations du réseau cellulaire aux États-Unis entre 2007 et 2011 qui permettaient d'accéder à l'Internet avec un téléphone. Hernán Moscoso-Boedo, qui a étudié le lien entre la fécondité et l'accès aux pleines capacités des téléphones intelligents aux États-Unis et au Royaume-Uni entre 2007 et 2020, a eu le même type de résultat. Le taux de grossesse adolescente a diminué de 73 % aux États-Unis, dit l'économiste de l'Université de Cincinnati, qui a publié ses résultats sur le site de prépublication SSRN. Jamais, poursuit-il, on n'aurait pensé arriver à un tel résultat avec des mesures de santé publique. Ça montre la puissance des téléphones intelligents. Les deux économistes américains ne savent pas quel mécanisme lie téléphone intelligent et fécondité. Ils citent les réseaux sociaux qui rendent hommes et femmes moins susceptibles d'avoir des interactions réelles, l'envoi de sextos qui augmente le risque de faux pas, compromettant l'établissement de relations solides, et la pornographie qui rend les hommes plus irréalistes dans leurs demandes et moins dépendants de partenaires pour les satisfaire. Avant les téléphones intelligents, il y avait des barrières à la pornographie, s'il fallait y accéder sur l'ordinateur familial, dit M. Moscoso. L'impact des téléphones intelligents a été de diminuer la fécondité des femmes de moins de 35 ans et de ralentir celle des femmes plus âgées, selon l'économiste de Cincinnati. Une explication partielle? Les démographes sont sceptiques. Aucune de ces deux études n'a été publiée dans des revues avec comité de lecture et elles ont été écrites par des économistes et non des démographes, dit Shirley Clark, sociologue spécialiste de la démographie à l'Université McGill. Beaucoup ont émis l'hypothèse que le passage des interactions interpersonnelles à une vie sociale en ligne, qui a été facilitée par l'iPhone, pourrait jouer un rôle dans le déclin de la fécondité. Mais je pense qu'il y a probablement des facteurs plus importants et qu'il faut comprendre pourquoi les gens sont passés à des interactions en ligne et pourquoi ça a diminué la fécondité. Les travaux du démographe Dean Spears de l'Université du Texas à Austin n'ont pas permis d'établir de lien entre fécondité et téléphone intelligent. L'auteur du livre « After the Spike » rapporte que dans l'État très pauvre d'Uttar Pradesh en Inde, il n'y a pas de différence de désir d'enfant entre les femmes utilisant beaucoup ou peu les téléphones intelligents. Je pense que ces études sont pertinentes dans le contexte américain parce que les États-Unis, contrairement au reste des pays riches, ont maintenu une fécondité élevée pendant longtemps, nous dit Dean Spears. Il ne sera malheureusement pas possible d'étudier la différence d'accès aux fonctionnalités des téléphones intelligents dans les pays pauvres, car ils ont une fécondité encore élevée, selon M. Spears. Il reste que le constat en Inde est aussi valable en Afrique, selon John May, économiste à l'Université George Mason, en banlieue de Washington. Pour le moment, on ne voit pas de baisse importante, même s'il y a des téléphones intelligents, note ce spécialiste de la démographie de l'Afrique subsaharienne, la seule région de la planète où il y a encore beaucoup de croissance démographique. Peut-être que les gens ont moins d'enfants et utilisent plus le téléphone intelligent parce qu'ils sont plus individualistes, avance John May. Ophélie Lacroix, qui fait son doctorat sur les discours numériques reproductifs à l'UQAM, estime quant à elle que les deux études ont un biais techno-déterministe qui ne reflète pas bien les choix personnels des femmes. Il s'agit d'un type de théorie qui considère que la technologie influence le comportement humain. Quand on essaie de faire parler les statistiques sur la fécondité, il faut être très prudent, dit Mme Lacroix, qui fait son doctorat sur le discours numérique relatif à la santé reproductive, l'avortement, la contraception et la grossesse. Je crois que l'influence des téléphones sur la fécondité peut être envisagée comme une explication partielle, pas globale. En savoir plus. Source, ONU. 2,2 Nombre d'enfants par femme dans le monde. 4,2. Nombre d'enfants par femme en Afrique subsaharienne. C'était le téléphone lié à la chute de la fécondité, selon deux études. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 juin 2026 dans La Presse.
Comment bien représenter la communauté trans à l'écran? Un texte de Martin Grenier, paru le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue. De plus en plus, on s'interroge sur les meilleures façons d'aborder aujourd'hui les réalités trans devant et derrière l'écran. Point de vue de deux créatrices trans très en vue, Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui a co-scénarisé le film François-Françoise, et la cinéaste ontarienne Louis De Filippis. Il y a 10 ans, le Festival international du film de Toronto, TIFF, décernait le prix du meilleur film canadien à « Ceux qui font des révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau ». Quelques mois plus tard, le long-métrage québécois recevait une mention spéciale du jury au Festival international du film de Berlin. À l'époque, le personnage d'une jeune révolutionnaire trans, incarnée par Gabrielle Bouliane-Tremblay, avait particulièrement retenu l'attention. « J'y pense à chaque année », se rappelle l'autrice et actrice, qui fut plongée dans un tourbillon médiatique dès sa première expérience de jeu. Je n'avais pas de formation. Je me suis un peu lancée dans l'inconnu, comme un saut dans le vide. Je ne savais pas si le parachute allait s'ouvrir, mais je l'espérais vraiment fort. L'intérêt autour du film, incluant un premier passage remarqué à « Tout le monde en parle », a contribué à éveiller les sensibilités et l'empathie envers la communauté trans, tout en actualisant le regard du milieu de l'audiovisuel à son égard. Une certaine réflexion s'est alors enclenchée. Moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas une belle perception des personnes trans à l'écran, se souvient Gabrielle Bouliane-Tremblay. On riait beaucoup d'elles. On les tournait souvent en ridicule. Elles étaient comme le clou du spectacle où elles souffraient et elles mouraient. L'histoire de François-Françoise. L'équipe du film François-Françoise, produit par KO24, avec l'appui financier du Fonds des médias du Canada, voulait absolument éviter ces faux pas. Voilà pourquoi, après avoir lu le livre « La fille d'elle-même » de Gabrielle Bouliane-Tremblay, le producteur Louis Morissette et le scénariste Jean-François Léger lui ont accordé leur confiance pour co-scénariser le film qui prendra l'affiche le 8 juillet prochain. « Je dis souvent que c'est écrit à 4 mains, » dit Gabrielle Bouliane-Tremblay, « mais c'est aussi écrit à 2 cœurs. » Je pense que je n'ai jamais vu ça au cinéma québécois. Une équipe de scénaristes formée d'un homme cisgenre et d'une femme trans. C'est déjà porteur et très évocateur d'où on est rendu dans notre société. François-Françoise raconte l'histoire d'un auteur en pleine crise de la cinquantaine qui prétend faussement être trans pour obtenir le financement de sa nouvelle série. Mais comme on peut s'en douter, son plan va vite dégénérer. Plusieurs semaines avant la sortie, l'affiche du film, qui montre Louis Morissette en femme, et les premières secondes de la bande-annonce ont fait réagir la communauté, surtout en France. Certaines personnes ont notamment sourcillé en voyant un acteur cisgenre dans le rôle-titre d'une femme trans. Gabriel Bouliane-Tremblay rappelle qu'il faut bien saisir l'intention derrière tout ça. Notre mission, avec ce film-là, c'est de prendre le spectateur avec ses idées préconçues et de l'amener ailleurs, explique la co-scénariste. C'est un film qui parle de la vision cisgenre à propos de la réalité trans, de comment le personnage de François va être confronté à ses propres préjugés, à une réalité qu'il ne connaissait pas du tout, et se remettre en question, mais jamais dans la moquerie, prendre la place qui s'impose. Cette réaction à chaud témoigne d'un consensus qui se dessine de plus en plus en matière de fiction, nonobstant le talent d'un Christian Bégin dans « M'entends-tu » ou d'un John Lithgow dans « Le monde selon Garp », pour la communauté, les personnages trans devraient désormais être joués par des personnes trans. Gabriel Bouliane-Tremblay l'affirme sans hésitation, tout comme la cinéaste ontarienne Louise De Filippis, dont les films mettent en scène des protagonistes trans. Autant je pense que les histoires trans ne devraient pas être racontées uniquement par des cinéastes trans, autant je crois que les acteurs non trans ne devraient pas accepter des rôles de trans, soutient l'artiste, qui s'est illustré dès ses premiers films dans les prestigieux festivals de Sundance, Toronto, Rotterdam et San Sebastian. Ce sera peut-être moins évident de trouver des acteurs et actrices trans classiques, mais ça ne veut pas dire que la bonne personne pour le rôle n'existe pas. Ça demande simplement un peu plus de travail dans le processus de distribution des rôles. D'ailleurs, l'héroïne de son premier long métrage, Temo la nuit dernière, jouée par Carmen Madonia, ne se destinait pas d'emblée à un parcours d'actrice. Selon la cinéaste, ça ne l'a pas empêchée de livrer une interprétation des plus émouvantes. Pour la rendre plus à l'aise sur le plateau de tournage, Louise De Filippis a misé sur une approche qui risque de faire du chemin, le mentorat. « Je ne voulais pas que l'on soit les seules personnes trans sur le plateau », poursuit Louise De Filippis. Donc, chaque matin, Carmen savait qu'une femme trans serait là pour l'habillage et qu'une autre fille trans la maquillerait. Elle savait qu'il y aurait une fille trans derrière la caméra. Si on la sent autant dans son élément en regardant le film, je crois que c'est parce qu'elle s'est sentie entourée et soutenue par des gens qui comprenaient à la fois ce que son personnage vivait et ce qu'elle vivait elle-même. Des principes à suivre. Le concept réjouit Gabriel Bouliane-Tremblay, qui compte bien s'en inspirer sur de futurs projets. Déjà ravi que François Françoise ait réuni 11 interprètes trans à l'écran, un des plus beaux moments de sa vie, elle avance également plusieurs idées pour favoriser une représentation positive de sa communauté à l'écran et assurer son bien-être sur les plateaux de tournage. D'abord, sensibiliser toute l'équipe en amont à la présence de personnes trans et aux réalités qu'elles vivent. Ensuite, à l'instar de Louise De Filippis, inclure des personnes trans à différents postes de la production. Pour ce qui est des histoires, miser sur des modèles narratifs positifs et variés pour que les spectateurs n'associent pas seulement la transidentité à des situations de souffrance ou à des scénarios de transition. Aussi, dans la mesure du possible, essayer de redistribuer une part des revenus à des organismes qui soutiennent la communauté. Enfin, comme c'est le cas avec François Françoise, varier les genres dramatiques en osant alterner entre des moments drôles et des scènes plus profondes. La scénariste est bien consciente que plus un film rejoint des gens au-delà de la communauté, plus il risque de sensibiliser et d'élargir les horizons. Toute ma vie, même avant d'être connue, j'ai essayé de rallier les gens, conclut Gabrielle Bouliane Tremblay. Mon point d'honneur avec ce projet-là, c'était qu'on voit une nouvelle facette de nos communautés, des représentations positives, des hommes et des femmes trans en situation de pouvoir et d'autonomisation. Qu'on ouvre les esprits à une autre réalité que la majorité de la population, encore aujourd'hui, ne connaît pas tant que ça. À l'heure où les ponts brûlent, si un film comme François-Françoise, qui tend la main vers l'autre, des deux côtés, peut inspirer les gens et faire œuvre utile, c'est tant mieux. C'était « Comment bien représenter la communauté trans à l'écran », un texte de Martin Grenier, paru le 17 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Un milieu plus humain? Un texte de Marine Corneau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Rendre l'agriculture durable, c'est aussi prendre en compte les conditions de travail des agriculteurs et agricultrices et celles des travailleuses et travailleurs migrants temporaires, TMT. Sur ce point, le Québec a du chemin à faire. La plus grande proportion des TMT se trouve dans le secteur agricole, rappelle Jorge Frosini, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, et titulaire de la chaire de recherche du Canada en communication interculturelle et technologie de gestion en contexte pluraliste. Le permis de travail fermé, qui lie les TMT à un seul employeur, en conjonction avec le statut de résident temporaire, peut faciliter les abus. Il faudrait le remplacer par un permis ouvert, qui donnerait aux TMT la possibilité de changer d'employeur, souligne-t-il. Parmi les autres mesures à mettre en place d'urgence, il mentionne l'accès à la résidence permanente si la personne le souhaite, la possibilité de choisir un autre logement que celui proposé par les employeurs, le renforcement des contrôles en sécurité et santé du travail et la présence de traductrices ou traducteurs indépendants dans les hôpitaux et dans les cliniques pour mieux prendre en charge les TMT en cas d'accident de travail. C'était un milieu plus humain? Un texte de Marine Corneau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.